Écho d'ici, écho d'ailleurs. Mounia Daoudi.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui avec Frédéric Maury, rédacteur en chef du service économie de Jeune Afrique, RFI reçoit son grand invité de l'économie. Bonjour Frédéric.
Bonjour Mounia.
Et pour cette première émission de l'année, nous recevons un jeune patron, Jérémy Odara, cofondateur et co-dirigeant de Africa Internet Group, qui en 3 ans s'est imposé comme un acteur majeur du e-commerce sur le continent. Bonjour Jérémy Odara.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes jeune, 34 ans, diplômé de HEC, la prestigieuse école des hautes études commerciales de Paris. Mais on sait finalement très peu de choses sur vous, si ce n'est que vous avez travaillé 7 ans pour le cabinet de conseil McKinsey en France, en Inde et aux États-Unis, et qu'en 2012, les frères Samver, fondateurs de Rocket Internet, le géant allemand du web, vous confient à vous et à votre acolyte Sacha Poignonec la mission de développer leurs activités en Afrique. Alors, une chose m'intrigue, pourquoi un groupe allemand est venu chercher 2 Français pour développer ses activités dans un pays africain anglophone, le Nigeria ?
Je pense qu'il y a eu 2 choses concomitantes. La première, c'est que moi, j'avais chez McKinsey toujours travaillé sur des problématiques de distribution, de e-commerce. Donc, j'avais depuis toujours un intérêt très marqué pour ces sujets, ces sociétés. Et par ailleurs, j'avais aussi une vraie passion pour les pays émergents. J'étais allé vivre 1 an à Bombay. J'avais vécu 1 an à New York, qui est aussi une ville dont l'énergie peut peut-être rappeler les pays émergents. Donc j'avais toujours eu envie de faire quelque chose dans les pays émergents et en lien avec le e-commerce. Et au même moment, on a fait le constat avec Sacha Poignonec, et puis en parallèle, je pense que Rocket Internet faisait le même constat, que le continent africain, en fait, avait d'une part aucun des grands acteurs du e-commerce ou de l'Internet qui était présent, et que par ailleurs, les besoins et les besoins des consommateurs pour justement ce type de service étaient très présents et très forts. Et donc à ce moment-là, on a discuté, et on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité pour justement construire des sites de e-commerce, de réservation d'hôtels, de petites annonces en ligne, etc.
Et nous allons y revenir. Quoi qu'il en soit, en à peine 3 ans, vous avez imposé des marques comme Jumia, présentée comme le Amazon africain, Kaimu, une marketplace, une plateforme qui, à l'instar d'eBay, met en relation tous les jours des milliers de vendeurs et d'acheteurs. Il y a aussi Carmudi qui s'est spécialisé dans le véhicule d'occasion, encore Jovago qui s'est imposé comme le leader de la réservation en ligne d'hôtels en Afrique. Bref, des succès à l'appel dont nous aurons l'occasion de parler au cours de cette émission, et nous évoquerons également les freins à votre développement, car il y en a aussi. Jérémy Odara, vous consacrez aujourd'hui 100% de votre activité à l'Afrique. Alors, comment vous est venu cet intérêt ? Est-ce qu'on peut parler de passion aujourd'hui pour l'Afrique ?
Absolument. Comment c'est venu ? Je pense vraiment c'était la conjonction du dynamisme de cette région qui est justement en train d'émerger, avec le fait que le besoin était particulier pour l'internet et pour le e-commerce est probablement plus fort que nous dans des pays déjà développés. C'est-à-dire que quand on va dans des pays comme le Nigeria, par exemple à Lagos, on a 20 millions d'habitants et on a 3 malls. Et pourtant, les gens, ils ont les mêmes besoins de consommation que tout le monde. Donc, ils ont besoin d'avoir des téléphones, une télé, un frigo, des habits, etc. Et la possibilité d'aller faire du shopping, en fait, assez complexe. Et c'est pour ça qu'on est toujours étonné quand on va à l'aéroport, qu'on soit à Roissy-Charles de Gaulle ou n'importe où, de voir les vols à destination d'Afrique avec les gens, en fait, qui remplissent leur valise de produits. C'est qu'en fait, la possibilité d'acheter de manière classique dans une boutique, dans un magasin, est extrêmement complexe, à des prix très élevés. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, il y a une vraie opportunité. Et ça, c'est quelque chose de très excitant, en fait.
Vous avez lancé Jumia, c'était en 2012, c'est ça ?
C'est ça.
C'était le début de cette aventure. Vous aviez passé, Mounia le disait tout à l'heure, plusieurs années à McKinsey. Donc McKinsey, c'est un prestigieux cabinet conseil voilà, qui recrute beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui fait que, pour quelqu'un qui a 30 ans, puisque vous aviez 30 ans à l'époque, on décide comme ça de quitter un grand cabinet comme McKinsey, où j'imagine vous étiez confortablement installé, pour se lancer dans une aventure qui est aujourd'hui un succès, mais qui paraît finalement assez risqué, parce que l'Afrique, c'est un continent difficile, parce que l'accès à Internet est très limité, parce que le e-commerce n'était pas développé. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à faire ce choix à un moment donné de sa carrière ?
Je pense que c'est, C'est lié à ce qui peut exciter quand on est justement dans le cabinet. C'est-à-dire que quand moi j'ai passé 7 ans chez McKinsey et chaque journée était exceptionnelle, et c'est lié, moi ce que j'y recherchais c'était la diversité, des nouveaux challenges, des problématiques différentes, rencontrer plein de gens et me mettre dans des situations nouvelles à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais chez McKinsey. Et il y a un moment, on se dit, voilà, on a fait ça pendant un certain temps, on commence à avoir un certain confort dans la manière de le faire. Et par ailleurs, on voit plein de choses se dérouler à côté. Donc moi, j'étais en Inde et je voyais tout ce qui pouvait se passer dans les pays émergents, à Bombay, avec des nouvelles entreprises tous les jours, une très très forte, beaucoup de start-up. Par ailleurs, j'avais passé un an à New York avec, pareil, ce bouillonnement où on voyait en permanence des nouvelles idées, des gens qui se lançaient. Et donc à un moment, quand on a, je pense, le caractère où on aime les choses qui bougent et se mettre un peu à risque, et par ailleurs qu'on voit qu'il y a des opportunités qui sont présentes, on se dit que c'est le bon moment et qu'il faut y aller, qu'il faut se lancer.
Donc c'est en 2012 que vous êtes lancé donc au Nigeria avec le lancement d'un site de e-commerce, jumia.com.ng. Alors certes aujourd'hui Jumia est présent dans plusieurs pays africains, 8 je crois.
Plus même, on est présent dans plus d'une dizaine de pays africains maintenant avec Jumia.
Donc plus d'une dizaine de pays africains, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment ça fonctionne Jumia?
Alors en fait Jumia c'est comme un magasin sur internet. Donc en fait, on se connecte sur une page qui est celle que vous avez indiquée, jumia.com.ng, et en fait, on arrive et on voit différents produits, différentes catégories de produits comme dans un supermarché. Donc on vend tout. On vend des produits électroniques, des produits de grande consommation, d'électroménager, on vend de la décoration, on vend des jouets, on vend des jeux vidéo, on peut vendre des habits. Et on navigue d'une catégorie à une autre avec sa souris et en cliquant sur les différents produits qu'on voit. Ensuite, on regarde les produits, on peut regarder les photos en détail, on peut regarder les descriptions des produits qui indiquent toutes les caractéristiques. On les met dans une sorte de panier ou de caddie virtuel et on va ensuite cliquer pour confirmer qu'on veut ces produits. Et à ce moment-là, en fait, on peut choisir soit de payer en ligne, soit de payer quand on voit le produit. Et donc, en fait, on paye pas immédiatement. On a un livreur qui se présente chez vous à l'adresse indiquée. Et au moment de la réception des produits, on vérifie qu'on a accès bien les produits qu'on voulait et on donne l'argent au livreur et on a le produit. Donc, en fait, on recrée une expérience d'achat qui pourrait être classique dans un magasin et dans une boutique sur Internet.
Il y a combien de références à peu près sur
Jumia? Plusieurs centaines de milliers.
Plusieurs centaines de milliers de références. Mais quand quelqu'un achète chez Jumia, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou qu'il soit au Maroc, enfin dans d'autres pays où vous êtes présent, vous avez tous ces produits-là, vous les avez stockés dans un entrepôt sur place ou vous les faites venir quand c'est commandé par le client?
Alors, tous les produits que vous voyez sur le site sont des produits qu'on stocke dans les entrepôts dans le pays. C'est-à-dire que si vous êtes sur le site de Jumia en Côte d'Ivoire, hein, tous les produits que vous voyez sur le site sont présents dans notre entrepôt à Abidjan, etc., etc. Donc on a des grands entrepôts, on a des grosses unités logistiques qui en fait nous permettent dans chacun des pays de stocker les produits, ou parfois on peut aussi les stocker chez des distributeurs ou des vendeurs qui eux aussi ont les produits.
Et du coup, livrer en combien de temps?
Alors ça peut aller du lendemain, si c'est un produit que vous commandez à Abidjan, par exemple, à 4, 5, 6 jours, si vous demandez un frigo très loin, dans des zones peu peuplées, par exemple.
Vous allez dans toutes les zones de tous les pays, que ce soit au Nigeria, par exemple, vous allez...
Ouais, alors on travaille avec des partenaires aussi, et qu'on couvre l'ensemble du territoire. Après, les durées de livraison peuvent varier selon la distance avec les capitales, par exemple.
L'ensemble du territoire, même les zones où l'insécurité est présente, je pense à Boko Haram.
On a des sociétés de livraison qui, en fait, opèrent dans ces zones-là et qui ont l'habitude d'opérer, donc on leur confie les produits. Elles peuvent les amener dans ces zones.
On en parlait tout à l'heure, mais voilà, il y a peu. Même si Internet se développe très rapidement, vous allez sans doute nous le dire, en Afrique subsaharienne, quand on regarde les taux de connexion, enfin le taux d'accès à Internet, il reste quand même très bas par rapport à la plupart des régions du monde. Est-ce que c'est pas un frein fondamental au développement de Jumia et de vos autres sites d'e-commerce? C'est que les gens tout simplement n'ont pas accès à Internet. Comment vous avez fait pour régler ce problème ou essayer de trouver une solution à ce problème?
Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que d'une part, il y a effectivement les taux de pénétration, mais les taux de pénétration, c'est relatif à une population. Quand on est des pays comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, c'est des très grandes populations, donc ça fait tout de même beaucoup de personnes en masse. Donc effectivement,
Millions de personnes, ouais, c'est ça, qui
ça
ont
fait
Internet.
Quand même plusieurs millions de personnes. On peut regarder le pourcentage, mais la valeur absolue est très élevée. Par ailleurs, je pense que les gens se connectent à Internet quand ils ont un besoin. C'est-à-dire que quand on a lancé ces sites web il y a maintenant 3 ans, les gens nous ont dit mais non, les gens se connecteront pas sur Internet pour acheter en ligne. En réalité, il y avait un vrai besoin. Et le besoin, c'est ce que je vous indiquais un peu plus tôt, c'est que acheter, c'est un besoin que tout le monde a. Et quand c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas de boutique, on crée le besoin. Et une fois qu'on crée le besoin, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Je pense que d'une part, les gens trouvent toujours un accès à Internet quand ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'on constate, par exemple, des gros pics de connexion aux heures de bureau. Donc les gens ont Internet au bureau, par exemple, peut-être pas chez eux, mais au bureau. On a aussi, on peut constater qu'on a plusieurs comptes qui sont liés à une seule adresse IP. Donc l'adresse IP, ça définit un ordinateur. Et donc on voit que plusieurs personnes se connectent avec un même ordinateur, donc ils partagent des accès à Internet. On voit aussi, depuis maintenant un an et demi, une pénétration extrêmement rapide des smartphones à plus bas prix venant de Chine principalement, c'est-à-dire que c'est des marques qui sont pas les Samsung ou les Apple qu'on a l'habitude, mais c'est des marques chinoises de smartphones et qui font que maintenant quand vous allez à Lagos, quand vous allez à Abidjan ou au Kenya, vous avez probablement votre chauffeur de taxi qui aura un smartphone à bas prix dans la main et qui avec ce smartphone pourra accéder à nos applications et à nos sites web. Donc il y a un besoin et les gens trouvent un moyen d'y accéder.
Alors pourquoi vous avez justement lancé vos activités au Nigeria et pas dans un autre pays, pourquoi pas francophone ?
Alors quand on a lancé tout d'abord au Nigeria, mais très vite on a aussi lancé au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud. Et on était en fait parti d'une réflexion simple qui était, pour revenir à votre question antérieure, où est-ce qu'on a les plus grandes populations de gens connectés sur Internet ? Donc on regardait pas les pourcentages de taux de pénétration, on s'est dit voilà, au Maroc on a une grande population sur Internet, en Égypte très très forte, au Nigeria, en Afrique du Sud. Rapidement après, on a lancé au Kenya et en Côte d'Ivoire. Donc on a vraiment regardé où était le besoin et où étaient les gens qui étaient capables de se connecter à Internet.
Alors au Nigeria, justement, vous avez un concurrent de taille, Konga, qui a été lancé, lui, par un Nigérian. Il y a un autre site, My Customer, qui est en train de se lancer ou qui va se lancer dans les semaines qui viennent. Autant dire que la bataille est féroce. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le docteur Gani Atadesina Outman. Elle est économiste à la National Open University de Lagos. Elle est interrogée par notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis.
Jumia et Konga ne sont pas les seuls gros acteurs du e-commerce au Nigeria. Désormais, il y en a plein d'autres. Néanmoins, la force de Jumia et de Konga, c'est qu'ils se distinguent dans cette compétition en inondant le marché avec de la pub. Quel que soit le navigateur que vous utilisez au Nigeria, vous tomberez soit sur un pop-up Jumia ou Konga. Et quand vous voyez des prix cassés, des 50%, forcément, vous voulez voir ce qu'il y a derrière. Mais au moment où vous cliquez, le pouvoir de détournement de Konga et de Jumia est tellement fort que beaucoup de gens souhaitant juste surfer sur le web se retrouvent à acheter au lieu de naviguer simplement. Vous pouvez aussi télécharger des applications Konga ou Jumia sur votre smartphone et là les deux compagnies vous séduisent à travers des sortes de bons de réduction. Je pense que Jumia et Konga sont en train de bouleverser la manière de faire des affaires au Nigeria. Et c'est de la valeur ajoutée car maintenant plus besoin d'aller uniquement dans des boutiques pour acheter des biens. La classe ouvrière n'a pas beaucoup de temps, surtout ici à Lagos. Les gens travaillent du matin au soir, du lundi au vendredi. Pas le temps de faire des courses. Maintenant, vous pouvez acheter sans bouger de chez vous. Le e-commerce est d'ores et déjà générateur d'emplois pour de nombreux Nigérians. Parce que toutes ces nouvelles entreprises recrutent aussi des agents commerciaux. Vous les voyez un peu partout à chaque coin de rue, ces agents Konga, Jumia ou Jivago. Ils sont disponibles pour tous ceux qui n'ont pas de portable ou d'ordinateur et ceux qui n'ont pas d'accès Internet. Et quand vous allez les voir, ils vous demandent juste ce que vous voulez acheter et ils effectuent la transaction en ligne pour vous. L'opération conclue, ils perçoivent une commission de Jumia, Konga ou n'importe quelle autre entreprise de e-commerce. C'est pourquoi tout cela crée du travail et c'est de la valeur ajoutée, donc de la richesse en plus pour le Nigeria.
Alors on le voit, le Nigeria c'est un marché très concurrentiel, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est ça, il y a une vraie bataille, et c'est vrai que c'est la première économie d'Afrique, c'est 180 millions d'habitants, je pense. Je sais pas combien il y a de gens connectés, vous avez une idée ou pas, qui ont accès à Internet au Nigeria?
Je pourrais pas vous dire, parce que je suis pas sûr que les statistiques soient très fiables.
Mais c'est plusieurs dizaines de millions, probablement, en tout cas. Donc une vraie bataille, un gros marché, alors pourquoi est-ce que Amazon n'y est pas, par exemple? C'est très surprenant, voilà, Amazon c'est la référence dans le domaine, pourquoi est-ce qu'à votre avis un géant comme Amazon n'est pas dans un marché comme le Nigeria?
C'est dur à dire. Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a plusieurs éléments. Je pense que, un, pour opérer en Afrique, il faut le vouloir. Je pense que quand on est un grand groupe international, on définit ses priorités stratégiques. Ils lancent des nouveaux services aux États-Unis. Ils sont en Chine et en Inde en train d'essayer de gagner ces marchés. Donc, est-ce que l'Afrique est une priorité?
Sur les très gros marchés mondiaux, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, est-ce que l'Afrique est une priorité pour eux? J'en sais rien. Par ailleurs, pour opérer en Afrique, il faut être capable de s'adapter. Et je pense que dans le reportage qu'on vient d'entendre, il y a une manière d'opérer qui est aussi différente. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'ils ont d'autres priorités stratégiques.
C'est plus dur de faire du e-commerce en Afrique qu'aux États-Unis ou en France, c'est ça? Il y a toute une série de difficultés.
Je pense qu'il faut être capable de changer des éléments. Quand on est en France, par exemple, on paye avant, au moment de passer la commande. En Afrique, les gens, ils ont un problème de confiance. Et donc, ils veulent être capables de voir le produit avant de payer. Donc nous, dès le début, par exemple, et ça, c'est vraiment très important, on s'est dit qu'on allait permettre aux gens de payer quand ils recevaient le produit. Ça, c'est un changement fondamental dans la manière d'opérer, où en fait, les gens payent à la livraison. Par ailleurs, on a des chaînes logistiques qui sont très différentes, parce que on peut pas s'appuyer sur des partenaires comme quand on est en France ou en Europe, où on aurait la Poste, etc., qui peuvent vous faire les livraisons. Donc nous, on a dû, par exemple, recruter nos propres chauffeurs, nos propres livreurs, etc. Pour le marketing, on a entendu aussi dans le reportage, on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui en fait font des revenus complémentaires, des compléments de salaire en apportant en fait physiquement la boutique Jumia à leurs clients avec des tablettes, avec des téléphones, et ils prennent les commandes physiquement.
Concrètement, dans la rue, on peut être abordé par quelqu'un qui a une tablette qui vous propose de passer la commande pour vous?
Alors, je pense pas que vous feriez aborder par hasard dans la rue. Ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut connaître avec Tupperware, avec ce type de vente, où on a, disons, la moitié de femmes au foyer, la moitié d'étudiants à peu près, qui font des revenus de salaire, des compléments de salaire en allant dans les universités, voir leurs amis, voir des familles, etc. Et en leur proposant tout simplement de leur amener le plus grand magasin du pays directement chez eux.
Le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique, c'est votre premier marché, j'imagine, de
Absolument.
Loin. C'est quel pourcentage de vos revenus?
Pourcentage de revenus élevé.
Plus de la moitié, j'imagine, c'est ça?
Pas forcément, je sais pas exactement, mais c'est, okay. C'est élevé et c'est notre premier business, absolument.
Et le Nigeria, c'est aussi un pays en crise depuis l'effondrement des cours du pétrole il y a un an et demi, avec des difficultés économiques qui sont connus, surtout dans le pétrole, mais j'imagine qu'il y a un impact. Est-ce que vous le voyez, vous, cet impact? C'est-à-dire, est-ce que votre croissance, qui est quand même vertigineuse, parce que je regardais tout à l'heure les chiffres, vous avez fait plus de 265%, c'est ça, de ventes entre 2014 et 2015. Est-ce que, malgré tout, au Nigeria, ça fléchit et il y a moins de gens qui achètent sur vos sites?
Alors, on voit pas trop un fléchissement de la demande. Alors on regarde hein, et on fait attention, mais on le voit pas trop. On pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il n'y a pas ce fléchissement de la demande. Un, on est en train de vendre des biens de grande consommation. C'est-à-dire qu'on vend des produits dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'acheter un nouveau frigo. On est encore dans un marché de premier équipement. Donc les gens achètent leur premier frigo, leur première télé, leur premier téléphone. Donc c'est des besoins qui sont assez constants, qu'on voit pas trop fléchir. Et la deuxième raison pour laquelle on voit pas trop de fléchissement également, c'est que les gens en fait achètent dans la monnaie locale. C'est-à-dire que nous, les prix sont en monnaie locale, ils achètent avec leur monnaie locale, donc il n'y a pas tous ces effets de taux de change, etc. En revanche, ce qui est vrai, qui est peut-être on a plus de complexité à opérer. C'est-à-dire que les acteurs avec lesquels on travaille sont impactés. Il y a des gens qui importent des produits, par exemple. Les téléphones, ils sont fabriqués en Chine, ils sont importés. Alors oui, les gens avec lesquels on travaille, ils peuvent être impactés. Il y a eu, après l'élection présidentielle, une semaine où il y a eu une pénurie de pétrole. DHL faisait plus voler d'avions au Nigeria parce qu'ils avaient peur de pas pouvoir les faire repartir, etc. Donc, notre écosystème est, je pense, impacté et plus fluctuant. Après, la demande, elle reste la même. On ne voit pas trop de différence.
Et il y a d'autres pays africains où il y a des difficultés économiques, où globalement, vous voyez toujours des taux de croissance assez importants dans votre activité?
Globalement, on verra avec le recul et encore plusieurs années, dans quelques années, mais on a un marché qui est assez résilient, on trouve. On a été en Égypte pendant les troubles, et ben les gens ils pouvaient plus sortir, finalement ils commandaient en ligne. Quand on était au Kenya après les attentats à Westgate, on n'a pas vraiment vu non plus d'impact sur nos ventes. Donc je pense que on opère un business qui est complexe et qui est en lien avec plein d'acteurs. Et donc quand il y a des problèmes dans un pays, tout le monde est impacté. Et donc ça peut créer de la complexité pour opérer. En revanche, la demande est en général assez stable.
C'est la fin de cette première partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. On se retrouve dans 3 minutes, juste après un point sur l'actualité internationale.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Mounia Daoudi.
Bienvenue dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Nous recevons cette semaine un jeune patron français, Jérémy Odara, dont le groupe AIG s'est imposé dans le commerce en ligne en Afrique. On l'évoquait dans la première partie de l'émission, un géant comme Amazon est aujourd'hui absent du continent, mais au Cameroun ou encore en Côte d'Ivoire, Jumia a aujourd'hui de la concurrence avec le français Cdiscount. Comment appréhendez-vous l'arrivée de nouveaux acteurs de l'e-commerce sur les terres où vous vous trouvez?
Quand on a commencé il y a 3-4 ans, ce que les gens nous disaient, c'est que personne n'allait acheter en ligne. On se rend compte que, un, c'est possible, et que, deux, plus on est de gens à éduquer le consommateur à pouvoir acheter en ligne avec de la confiance, avec des services performants, plus on augmente la taille en fait du gâteau. Et donc finalement, c'est pas de la concurrence. Je pense qu'on est en train de structurer un marché. Le marché est grand, le marché est large. Et en fait, si on est plusieurs à éduquer le consommateur, c'est bien, on a eu dans le reportage un peu plus tôt le cas du Nigeria. Je pense qu'un jour, le Nigeria sera un des pays où le taux de pénétration du e-commerce sera le plus élevé au monde. Donc je pense qu'on est au début d'un mouvement. Et c'est plutôt bien qu'on soit plusieurs dans cette aventure à éduquer le consommateur à acheter en ligne avec confiance.
Alors oui, effectivement, le commerce en ligne, mais il y a aussi la grande distribution. Mmh. Et il y a quelques semaines, à Abidjan, il y a un grand centre commercial qui a été inauguré, Place Marcory. Je vous propose d'écouter le reportage de notre correspondant sur place, Frédéric Gara.
Cela peut paraître anecdotique, mais l'ouverture de Place Marcory à Abidjan était un petit événement pour la capitale économique ivoirienne. 550 embauches, 20 000 m² de surface commerciale, 55 enseignes dans la galerie. L'ouverture de ce premier hypermarché du pays marque à la fois le signe d'une reprise de l'activité économique, l'émergence d'une classe moyenne fortement consommatrice et la possibilité pour des Ivoiriens jusqu'ici plutôt captifs de faire jouer la concurrence entre grandes surfaces.
Ça peut être bénéfique aux consommateurs parce que chacun de son côté va essayer de prévoir un peu ses prix et puis bon, à notre avantage.
C'est une très bonne chose parce que là maintenant il y a la concurrence. Oui, ça fera baisser le prix parce que sur le nouveau supermarché qui ouvre à Carrefour, baisse ses prix et ils seront dans l'obligation de baisser aussi leur prix. Sinon, on aura tous à Carrefour et puis les abandonnés, ça c'est clair.
Les clients ivoiriens attendent des prix moins chers et les producteurs locaux, eux, espèrent plus d'espace de vente pour leur viande, leur maraîchage ou bien leur manufacture. Vendre des produits locaux à une grande échelle, c'est aussi l'un des arguments de cette grande surface. Philippe Cornen, responsable des achats.
Lipato et Luco, ce sont deux fournisseurs. Alors ce ne sont pas de grandes sociétés, hein, ce sont plutôt des groupements de femmes artisanes qui ont fait beaucoup d'efforts pour être référencés chez nous. On a souhaité avoir des produits de qualité, du pain de qualité, du coton de qualité, également des modèles originaux. Donc ce sont vraiment deux créatrices qui travaillent sur ce projet-là. Et donc ce sont des créations originales pour Carrefour.
Pour le moment, ce sont 170 contrats sur des produits locaux avec des fournisseurs de Côte d'Ivoire qui ont été signés. Mais la demande aidant, la proportion du Made in Côte d'Ivoire pourrait nettement augmenter dans les rayonnages. Xavier Desjobert, directeur général de CFAO Retail.
Le sujet pour nous, c'est véritablement d'apporter du pouvoir d'achat, d'apporter des prix, mais d'apporter aussi des produits à la classe moyenne émergente. C'est celle-là que nous visons, c'est celle-là qui aujourd'hui est extrêmement dynamique, c'est celle-là d'ailleurs dont le pouvoir d'achat augmente et qui a une vraie volonté d'avancer, de grandir, de se construire et de construire aussi pour ses enfants. Bien entendu, nous commençons par les métropoles où la classe moyenne émergente est la plus nombreuse et où il y a le plus de manque de magasins et de centres commerciaux. Bien entendu, nous avons vocation à aller dans d'autres villes, comme Bouaké, comme Yamoussoukro, par exemple.
Un hypermarché du même type devrait ouvrir cette année dans un pays de la zone CEMAC. Entre-temps, un nouvel hypermarché pourrait voir le jour dans le nord d'Abidjan. Un pari qui pourrait être gagnant, car 8 à 10% des consommateurs abidjanais touchent 15 à 200 dollars par jour. C'est cette classe moyenne émergente que visent les grandes enseignes de distribution. Frédéric Gara, Abidjan, RFI.
Alors Jérémy Odara, cette classe moyenne émergente dont il est question dans ce reportage, il y a aussi un autre débat sur son existence, puisqu'on voyait par exemple, je cite le Financial Times, mais il y a quelques mois qui parlait du départ de Nestlé d'Afrique de l'Est en disant que la classe moyenne africaine, elle n'existait pas, c'était un mythe. Pourtant, on voit des centres commerciaux s'ouvrir, on voit, enfin, vous vous développez. Donc est-ce que, voilà, vous qui êtes vraiment confronté à cette classe moyenne, parce que c'est elle qui achète chez vous, vous n'êtes pas des sites pour l'élite, vous êtes des sites pour le grand public, est-ce que pour vous, elle existe vraiment d'une part, et est-ce que, voilà, combien est-ce qu'elles dépensent? Est-ce que ce sont des sommes plusieurs centaines de dollars? Est-ce que ce sont des sommes beaucoup plus minimes? Comment vous la voyez en termes de comportement d'achat et en termes d'existence aussi?
On n'est pas économiste, hein, donc c'est dur de définir pour nous la classe moyenne. Nous, on voit effectivement quand même des choses qui laissent à penser que c'est très vrai. Bon, d'une part, on a, dans tous les pays où on est, des gens qui sont très au courant de ce à quoi ils sont en droit d'attendre. Ils ont de la famille en Europe, ils ont de la famille aux États-Unis, ils connaissent quels sont les vrais prix des produits, ils savent ce qu'ils sont, pourquoi ils devraient avoir des garanties sur un téléviseur, ils savent que quelle est la nouvelle technologie, ils savent qu'on peut acheter en ligne et qu'on est censé se faire livrer en deux jours, etc. Donc il y a un niveau de connaissance de ce qu'ils sont en droit d'attendre de la distribution moderne qui est très élevé et qui compare à ce qu'ils ont, et je pense que l'exemple que vous avez eu dans le reportage des hypermarchés à Abidjan est très clair. Les gens, quand ils voulaient acheter des fruits, des légumes ou des biens électroménagers, ils avaient le marché gris, par exemple, ou des marchés en plein air. Là, ils savent qu'ils ont un magasin avec
les meilleurs prix. C'est une classe moyenne plutôt sophistiquée.
Donc je pense qu'ils sont au courant de ce en quoi ils sont en droit d'attendre. Deuxièmement, on est, je pense, dans des marchés où les gens sont encore dans le premier équipement. C'est-à-dire que les gens, ils veulent avoir un téléphone portable, ils veulent avoir une télé, ils veulent avoir une clim, un réfrigérateur.
C'est surtout ça qui s'achète sur
vos sites, et donc on voit vraiment ce que nous on appelle dans notre jargon des paniers d'achat assez élevés en fait. Après, ils sont très attentifs au prix parce qu'à nouveau ils savent quel est le prix, ils sont pas prêts à payer un premium parce qu'ils sont en Afrique alors que leur cousin leur explique que le même produit coûte 20% moins cher à New York, mais ils sont prêts à dépenser de l'argent pour avoir de la qualité et pour avoir des produits qui sont sous garantie, durables, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté d'être capable de payer si le prix est juste.
Alors quand on regarde, on a l'exemple de Place Marcory, mais quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui sont prévus un peu partout en Afrique. On voit pas moins de 80 centres commerciaux qui devraient être inaugurés dans une dizaine de pays. Est-ce que pour vous, il y a forcément une concurrence directe entre eux et vous, puisque vous vendez sans doute en grande partie les mêmes produits? Et comment vous voyez cette concurrence? Est-ce que vous pensez que le e-commerce a un temps d'avance sur la grande distribution physique qui n'est encore pas très développée en Afrique?
Non, je pense que c'est très très bien, mais il y a une limite. C'est très bien parce qu'à nouveau, ça permet de moderniser la distribution. Donc les gens, ils achètent dans un environnement où ils comprennent que les prix sont fixés, les prix sont justes, les produits sont originaux et sous garantie, etc., etc. Donc il y a toute une éducation sur la distribution moderne qui est faite et qui est très très bien, et je pense que ça permet à chacun de s'y retrouver. Maintenant, la limitation, c'est que les plans restent des plans, et nous quand on a ouvert pareil il y a 3-4 ans, on nous expliquait qu'il y avait 80 centres commerciaux qui allaient ouvrir, et il y en a toujours 80 qui doivent ouvrir, donc ils ouvrent un par un, mais c'est très compliqué d'ouvrir des centres commerciaux en Afrique. Il faut sécuriser des droits sur les terres, il faut être capable de construire, ensuite il faut avoir des routes où les gens viennent et parquent leurs voitures, etc. Donc les obstacles à la construction sont extrêmement élevés, et par ailleurs il y aurait besoin de 80 centres commerciaux à Lagos seulement si on voulait vraiment répondre aux besoins de la population. Donc je pense qu'à nouveau, c'est pas une concurrence réelle. Je pense qu'on est en train d'élargir la part de la distribution moderne, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit pas en ligne, et que ça se fait à, je pense, un rythme qui est finalement un peu peut-être pas très rapide sur la distribution physique, parce que justement c'est assez compliqué d'ouvrir des centres commerciaux dans les différentes villes et pays d'Afrique.
Est-ce que vous pensez que le e-commerce, de manière générale, en tout cas en Afrique subsaharienne, c'est moins le cas en Afrique du Nord, mais en Afrique subsaharienne, peut être largement plus important que la distribution physique, alors que dans les pays dits matures, la proportion est inverse. Le e-commerce reste encore un peu marginal, et qu'en Afrique, il soit vraiment dominant?
Ouais, nous c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand on regarde là où la distribution physique est la plus développée, que ce soit par exemple la Chine ou les États-Unis. Quand on est aux États-Unis, il y a des centres commerciaux à tous les coins de rue, il y a des Zara, il y a des boutiques à chaque. Enfin, en bas de chez soi, on a une boutique et c'est les plus belles boutiques qu'on puisse imaginer. Et le e-commerce représente 10 à 15%. C'est pareil en Chine. Il y a des malls dans toutes les villes de Chine et le e-commerce représente 10 à 15%. Alors, si on se place dans une région où peut-être que ça prendra beaucoup, beaucoup de temps et où il n'y aura peut-être même jamais des boutiques à chaque coin de rue ou la même densité de commerce, on peut imaginer que mécaniquement, le e-commerce fera 30, 40, 50, 60% peut-être de la distribution moderne. Donc oui, on pense que ça ira plus vite et plus loin.
Bah, pour en venir à un pays justement où il y a des centres commerciaux, où il y a des commerces de proximité, je pense au Maroc, qui est un des pays où vous êtes installé au tout début. Comment est-ce que vous arrivez à vous imposer dans un pays alors qu'il y a déjà des sites marchands qui sont déjà sur place,
hein? Nous, là, on a une proposition de valeur qui pourrait être similaire à quand vous achetez en ligne en France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez aussi des boutiques et ça ne vous empêche pas d'aller acheter en ligne. Et vous achetez en ligne parce que, un, c'est le plus pratique. Vous êtes chez vous et vous pouvez commander. Deuxièmement, vous avez une diversité du choix en un endroit qui est assez exceptionnel. Et vous pouvez trouver toutes les marques, tous les produits, les anciennes générations de produits, les nouvelles, les dernières nouveautés. Vous avez des prix qui sont meilleurs. Donc on a des prix qui sont meilleurs que la distribution classique parce qu'on n'a pas des pas de porte, des boutiques, etc. Et enfin, vous avez des conditions qui font que vous pouvez renvoyer les produits si dans les 7 jours vous changez d'avis, etc. Et enfin, la notion de confiance, à nouveau, comme vous payez au moment où vous recevez le produit, n'est pas un obstacle par rapport au fait que les gens diraient ben voilà, je peux pas toucher, je peux pas voir. On a pas ce problème-là. Donc finalement, entre la diversité, la praticité, le prix, on se retrouve avec des propositions de valeur qui font que ça marche aussi dans des pays où il y a de la distribution physique.
Mais on peut pas marchander sur Jumia.com.
Mais vous n'avez pas besoin parce que vous avez des prix qui sont déjà pertinents.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.
Vous êtes sur RFI et notre grand invité de l'économie avec Frédéric Maury de Jeune Afrique et cette semaine, Jérémy Odara.
Il y a un grand site mondial, c'est Booking.com, qui était au Maroc, ouais, et qui a arrêté ses activités au Maroc. Est-ce que c'est aussi un marché difficile pour Jumia ou est-ce que vous êtes sur des niveaux de développement qui sont comparables à ce qui se passe dans le reste de l'Afrique?
On a un site de réservation d'hôtel qui s'appelle Jovago, qui est présent en toute l'Afrique. Je pense que pour opérer ces sites de manière générale, il faut être dans les pays, il faut être présent, et il faut être capable d'aller rencontrer les hôteliers. Il faut être capable d'aller travailler, d'éduquer les hôteliers à recevoir un email, vérifier leur boîte mail pour savoir qu'ils ont une réservation. C'est très compliqué, je pense, d'opérer un business internet en Afrique sans être présent physiquement au contact des fournisseurs ou des clients.
Vous vous présentez aujourd'hui comme le numéro 1 en Afrique. Qu'est-ce qui vous différencie, notamment de Booking ou de Expedia? C'est quoi votre valeur ajoutée?
On a quasiment tous les hôtels qui existent dans les pays. Donc nous, on est présent dans chacun des pays, il n'y a pas que les hôtels des grandes chaînes internationales. Donc il n'y a pas que le Hilton et le Radisson, qui sont des hôtels qu'on peut trouver sur tous les grands sites internationaux. Il y a dans tous ces pays des centaines et des centaines de petits hôtels, de guest house, qui pour la première fois ont des gens qui vont venir, pas juste de la station de bus parce qu'ils en ont entendu parler, mais parce que avant même de partir, ils ont pu aller sur un site internet, comparer les hôtels, les étoiles, les prix, etc. Donc en fait, on a l'ensemble quasiment, je pense, de l'offre disponible d'hôtellerie, si on peut appeler ça comme ça, dans tous les pays d'Afrique.
Est-ce que vous prenez en compte la dimension sécurité?
Alors, il y a deux choses, trois choses même. D'une part, on va signer les hôtels physiquement en personne. Donc ça, c'est à nouveau la force d'être présent sur place avec des équipes. Donc on peut faire évidemment un premier tri à ce niveau-là. Deuxièmement, si on a le moindre problème, évidemment, on enlève les hôtels. Et enfin, comme sur tout site de réservation d'hôtels en ligne, les clients donnent leurs avis, mettent des étoiles, des notes, etc., qui permettent au nouveau client qui arrivera de faire son tri et de choisir un hôtel qui correspond en termes de prix, de localisation et puis d'étoiles à ce qui l'intéresse.
Vous avez combien de sites différents en fait? C'est-à-dire là, vous avez parlé de l'hôtellerie, on a parlé de Jumia au début, il y a combien de
on a une dizaine de sites. Donc on a un site qui s'appelle Jumia, qui est ce site qui permet de commander en ligne. On a un deuxième qui s'appelle Kaimu. Kaimu, c'est une marketplace. Donc une marketplace, c'est quelque chose qui permet à chacun de vendre lui-même en ligne sur Internet. Donc on a un peu plus de 100 000 petites boutiques en Afrique, qui sont ce que traditionnellement on voit dans la rue, les gens qui ont une petite boutique ou sur des marchés, qui en fait ouvrent leur boutique en ligne et vendent leurs produits. Ça peut même être des produits d'occasion, etc. On a un site de voyage qui s'appelle Jovago. On a un site de livraison de repas à domicile qui s'appelle Evelofood. Donc vous commandez en ligne un repas qu'un restaurant vous livre. On a un site de réservation de taxi qui s'appelle Easy Taxi. On a un
site. Vous êtes dans l'immobilier?
Alors après, on a des sites de petites annonces. Donc on a un site de petites annonces immobilières qui s'appelle Lamoudi, de petites annonces de voitures qui s'appelle Carmoudi, d'emploi qui s'appelle Everjobs, et enfin un site un petit peu plus ouvert qui s'appelle Vendito et qui pourrait se rapprocher de Le Bon Coin en France, par exemple.
Alors est-ce que tout fonctionne ou est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes rendu compte que ça marchait pas très bien pour le coup?
On n'a pas tous nos sites dans tous les pays où on est présent, en fait. Donc quand on est en train de lancer des sites web, on se demande dans quel pays il y aura une taille suffisante pour que le site soit pertinent. Donc par exemple Jumia, qui est notre business à cause des infrastructures logistiques, qui est probablement le plus lourd et le plus cher à opérer, est présent dans les pays les plus gros d'Afrique. Et par ailleurs, on regarde est-ce que l'intensité concurrentielle fait que ça pourra marcher. Par exemple l'Afrique du Sud, c'est un pays où il y a finalement une pression concurrentielle parce que c'est un pays qui depuis toujours a énormément de sociétés qui sont présentes pour une population qui est pas si élevée que ça. Donc finalement, il y a un décalage entre l'intensité concurrentielle et l'opportunité. Donc on a un seul site en Afrique du Sud qui s'appelle Zendo et qui vend de l'habillement en ligne. Donc on essaye à chaque fois d'ajuster
le. Est-ce qu'il y en a qui ne marchent pas? Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez eu, parce que j'imagine que vous n'avez pas que des succès, vous avez eu des échecs et des surprises, c'est-à-dire des sites que vous avez soit fermés, soit vous voyez bien que ça décolle pas aussi vite, parce que vous avez cité beaucoup de choses, les taxis, ouais, la livraison de repas à domicile. Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas aussi bien que ce que vous
pouvez imaginer? Il peut y avoir des différences. Non, exactement. Il peut y avoir des bonnes surprises. Il peut y avoir des bonnes surprises. Alors, par exemple, il y a des pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. C'est des pays qui marquent, même le Cameroun, sont des pays où on a des vitesses de croissance qui sont des bonnes surprises. C'est-à-dire que le Cameroun, des fois, on se dirait, mais tiens, les gens ont peu accès à Internet, c'est peu structuré, etc. Mmh. Ça marche très, très bien. Après, la force.
C'est quoi? C'est 10% par an ou c'est plus que
c'est
ça?
C'est plus. C'est-à-dire ça peut, fois 2, fois 3, l'ensemble de la société.
Donc, 200 an. À 300% de, ouais, c'est ça, de c'est croissance ça. Annuelle.
Ouais, annuelle. Okay. Et ça, après, la force d'un business sur Internet, c'est que on a peu de coûts et on peut piloter très finement notre investissement marketing qui, en fait, est lié à la performance. Donc, finalement, quand des sociétés sont plus lentes à croître, nous, on ajuste le budget marketing à la performance et finalement, on prend notre temps.
D'accord, mais est-ce qu'il y en a un qui n'a pas marché? Vous ne m'avez pas cité un exemple?
Ben non, parce que finalement, ils marchent tous à des rythmes différents. Donc, parfois, c'est plus lent et donc on investit moins et on prend notre temps. Et tous les marchés dans lesquels on est en train de répondre à des besoins qui sont des besoins évidents. Dans tous les pays, les gens auront besoin de regarder des annonces immobilières. Partout, les gens vont avoir besoin, à un moment ou à un autre, de réserver leur hôtel. Donc, on sait qu'on répond à des besoins de base. On sait que tous ces pays sont en forte croissance. Donc, s'il faut qu'on prenne notre temps, on le prend. Mais à chaque fois, ça marche d'une manière ou d'une autre.
Vous diriez que vous avez combien de clients en Afrique aujourd'hui, à peu près?
Je pourrais pas dire.
C'est quoi, plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions?
Je saurais pas vous dire. Non, je saurais pas vous dire.
Et l'impression que vous donnez, c'est de tout faire. C'est-à-dire, voilà, vous avez cité tous ces secteurs d'activité très divers et variés, alors que finalement, vos concurrents, ils sont plus recentrés sur un seul type de site. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça de vous diversifier dans tous les sens avec autant de choses différentes?
Bah, nous, à nouveau, notre constat de départ, c'était de se dire qu'il y a des vrais besoins de base qui sont pas remplis. Et quand on regarde après quels sont les grands domaines de l'Internet, on voit qu'il y a le voyage en ligne, la distribution, les petites annonces, voilà, il y a quelques grands domaines de l'Internet. Alors après, quand on est en Europe ou aux États-Unis, on commence à avoir une sophistication qui fait que quand il y a des nouvelles sociétés, c'est des niches qui proposent de rentrer dans un besoin très précis avec une manière spéciale de naviguer, etc. Nous, on a la chance d'être dans des endroits où encore on peut arriver avec la proposition originale, qui est de dire, vous avez le grand site où vous pouvez trouver tous vos hôtels. Vous avez le grand site où vous pouvez trouver tous les produits d'occasion, par exemple. Et donc, tant qu'on est en train de répondre à des vrais besoins, on se dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas lancer un business qui est prouvé.
Est-ce que ce besoin, justement, fait que c'est un e-commerce africain, globalement, on peut parler d'un e-commerce africain, ou bien chaque pays a aujourd'hui encore ses spécificités et vous vous y adaptez?
Alors, nous, on pense que les besoins sont les mêmes et que les besoins sont partout les mêmes. En Afrique, mais même au-delà. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'avoir, par exemple, beaucoup de choix, un très bon prix, d'être livré vite et de manière sûre. Tout le monde a envie d'avoir beaucoup d'hôtels avec des notes. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des pays qui sont pas sensibles au prix, par exemple. C'est pas vrai. Tout le monde a les mêmes besoins. Maintenant, les spécificités qu'on peut voir, c'est des spécificités de marque, de goût, par exemple. On a les marques qui se vendent sont très différentes d'un pays à l'autre. Les hôtels qui réussissent sont très différents d'un pays à l'autre. Est-ce que les gens achètent plutôt des maisons ou des appartements dans un pays ou dans un autre? C'est très, très différent. Donc, il y a des différences d'habitude de consommation. Mais par contre, les besoins sont vraiment identiques, je pense.
Alors, on va parler un peu d'AIG, qui est quand même par où l'aventure Jumia a commencé. Vous ne publiez jamais vos chiffres pour l'ensemble du groupe. Pourquoi?
Parce qu'on n'est pas coté, donc on n'a pas besoin de les publier. Par ailleurs, on a des actionnaires. On a trois actionnaires. Ce sont Rocket Internet, qui est un groupe Internet, et deux opérateurs de télécommunications, un qui s'appelle MTN et un deuxième qui s'appelle Millicom et qui est présent avec la marque Tigo en Afrique, qui eux sont cotés et eux publient leurs comptes et disclosent des informations sur nous. Donc,
ils publient notamment les chiffres de Jumia. C'est les seuls qu'on ait, puisque c'est les seuls chiffres publics. Les autres, vous les communiquez. Mmh. Vous nous les donnerez pas d'ailleurs aujourd'hui, le revenu global de AIG?
Non.
Non. Donc on va juste citer ceux de Jumia. Jumia, c'est des chiffres officiels, c'est quelle vente globale à peu près? C'est 200 millions, 300 millions?
Vous allez me le dire.
Vous savez même pas. Entre 200 et 300 millions, et j'ai noté 265% de croissance des ventes. Mais ce qui surtout me frappe, c'est que ça perd énormément d'argent. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres sur les 9 premiers mois de 2014, vous perdez 65 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent, vous êtes d'accord. Alors vous avez sans doute des actionnaires très sympathiques, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une activité qui se développe en effet très vite? Depuis tout à l'heure, vous nous le dites, avec une grosse croissance, mais qui perd quand même de plus en plus d'argent, plus elle grossit. Donc quel est le modèle économique, surprenant comme modèle économique?
On a vraiment la chance de faire un business qui est un business de distribution. Donc dans la distribution, les economics de notre business sont très simples. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on vend et on peut regarder nos coûts. On n'est pas dans un dans un business comme des sites de réseaux sociaux où, par exemple, il faut espérer un jour pouvoir monétiser une audience en espérant qu'on aura assez d'audience pour un jour la monétiser. Le jour où on fait une commande, on sait ce qu'elle représente. On a aujourd'hui une décision qui est, c'est un investissement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut ralentir ou accélérer. L'argent qu'on dépense, c'est de l'argent qu'on dépense en marketing, qu'on dépense en technologie, et de l'argent qu'on dépense en recrutement et payer des talents. On va à la vitesse à laquelle on veut avec cet investissement.
Donc quand vous perdez de l'argent, ce que vous dites, c'est que c'est voulu quelque part, d'une certaine manière.
Exactement. Et le jour où on pense qu'on est sur des marchés qui sont en forte croissance et où il y a une place à prendre, notamment parce qu'on est en train de construire justement cette distribution moderne et où on est en train justement, c'était votre question plus tôt, d'avoir un secteur de l'e-commerce qui est en train probablement d'être même plus gros que la distribution physique. Oui. Donc on est vraiment sur une politique qui est de se dire qu'on est en train de construire le marché de la distribution moderne et on est en train de faire un investissement pour accélérer. Donc c'est vraiment l'essence qu'on met dans la machine et on peut accélérer ou ralentir au rythme où on veut en fait.
Est-ce que votre objectif d'une certaine manière, c'est pas d'être le numéro un incontestable, de s'imposer, quitte à perdre de l'argent pendant X années et un jour de profiter quelque part de cette place de numéro 1, c'est ça ?
Bien sûr, nous aujourd'hui on est en train d'investir pour croître. On est déjà numéro 1, donc ça c'est pas l'objectif.
Au Nigeria, c'est disputé, non ?
Pas vraiment, non. Non. On est de loin numéro 1, mais l'objectif à nouveau c'est de convertir des nouveaux clients à faire leur premier achat sur de la distribution moderne. C'est-à-dire que les gens achetaient avant dans la rue et du jour au lendemain ils se disent bah tiens, je vais acheter sur Internet.
Vous parliez de vos actionnaires, notamment il y a deux gros opérateurs télécoms et notamment MTN qui a aujourd'hui de gros soucis financiers, notamment au Nigeria. Mmh. Est-ce qu'il va continuer longtemps à vous soutenir ?
Pour l'instant, tout va très bien.
Alors justement, le choix de cette alliance avec des opérateurs télécoms, est-ce que ça vous permet de développer en interne notamment des solutions de paiement par mobile ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées de ce point de vue-là ?
Je pense que c'est très intéressant et c'est assez unique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres groupes de e-commerce dans le monde qui a une telle intégration avec des opérateurs télécommunications qui, eux, ont aussi un accès direct à l'utilisateur final. Et c'est une vraie force. Donc nous, aujourd'hui, on est capable, dans tous les pays où on est présent, d'accéder à quasiment la moitié... On a accès quasiment à la moitié de la population africaine qui a un téléphone portable d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que c'est assez unique et ça permet de nombreuses activités. Alors ça permet des activités par rapport aux moyens de paiement qui est en fait de pousser des solutions de moyens de paiement en mobile à travers nos sites web. Ça permet de proposer des promotions, des gens qui ont un téléphone portable et qui reçoivent des messages leur indiquant que comme ils sont clients de MTN ou de Tigo, ils ont accès à des réductions que d'autres gens n'ont pas. Ça permet d'être présent physiquement, donc on est présent dans les boutiques par exemple, et donc quand les gens font la queue pour acheter ou réparer leur téléphone portable, ils peuvent installer les applications et avoir une compréhension physique presque de qu'est-ce que sont que ces applications. Donc voilà, il y a énormément d'opportunités. On est au début, je pense, d'arriver à comprendre l'ensemble des synergies et des opportunités qu'on peut créer en justement en ayant un opérateur télécommunication comme actionnaire.
Il y a une collaboration assez proche du coup d'un point de vue commercial. Je parle pas
avec les deux, absolument.
Avec soit avec MTN ou
ouais, sur le terrain, dans chacun des pays.
Pour vous développer. Il y a un autre point qui est intéressant dans votre développement, c'est le nombre d'employés. Vous avez combien d'employés aujourd'hui en Afrique ?
On en a un peu plus de 5000.
Un peu plus de 5000, ouais. Donc, alors que la société, le groupe, a 3 ans uniquement.
Ouais,
donc c'est quand même déjà un gros employeur. Ouais. Et je pense que dans les auditeurs, il y a sans doute plein de gens qui cherchent du boulot.
Ouais.
Alors, vous cherchez qui
Quel profil
voilà, et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour entrer dans votre société ?
Je pense, alors, on cherche des profils très variés, d'une part. C'est-à-dire que... Le métier d'Internet, c'est un métier qui est plus divers que ce qu'on peut penser quand on connaît pas très bien. C'est-à-dire que c'est un métier où il y a des gens qui font du marketing, des gens qui font de la logistique, des gens qui font des achats, des gens qui font de la finance, des relations humaines. Donc il y a une variété de métiers qui est très très large. Après, je pense qu'on a une culture, une identité qui est forte et où on a besoin de gens très énergiques, très dynamiques, très motivés. Parce qu'on est une jeune société en pleine croissance et il y a des challenges tous les jours. Donc dans chacun des pays, si certains des auditeurs sont avec des sites qu'on a, ils peuvent contacter les équipes et on fait passer des entretiens tous les jours en permanence.
Des profils, c'est plutôt des profils jeunes du coup, c'est ça ?
Non, on a vraiment besoin de tous les talents. Pour faire tourner un entrepôt à Abidjan, on a besoin de gens qui ont une expérience dans la logistique pour gérer les relations humaines d'une société qui a plusieurs centaines d'employés. On a besoin de gens, on a des call centers très larges avec des agents de call center qui en ont opéré pour des grands acteurs existants, etc. Donc pas forcément jeunes. En revanche, le besoin d'être motivé, d'avoir de l'énergie et de la passion est le même pour tout le monde.
Vous importez une grande majorité de vos produits, des produits que vous vendez sur votre site. Depuis quelques années, il y a un débat autour de l'industrialisation de l'Afrique, de la création d'emplois. On vient de parler de création d'emplois. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à des sites qui existent déjà et qui, eux, mettent en valeur des produits plutôt locaux?
Nous, on vend les produits que les clients veulent et après ils sont produits un peu partout. Donc aujourd'hui quand on vend des produits électroniques, ils sont souvent produits en Chine, mais comme un peu partout dans le monde. Si aujourd'hui vous achetez un téléphone en France, il sera aussi produit en Chine. Et donc sur les produits électroniques, oui, c'est vrai que c'est compliqué.
La part des produits locaux en France est quand même beaucoup plus élevée qu'en Afrique.
Alors c'est là où j'en viens. Après, on a différentes catégories. Donc selon les catégories, ça change. Donc par exemple, sur tout ce qui est la mode et l'habillement, on a un effort très 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 fort justement pour aider des designers locaux à pousser leur collection. Il y en a même qu'on aide, qu'on finance, etc. Après, si vous voulez acheter un téléphone, un smartphone 4G, que vous soyez en France, aux États-Unis ou en Afrique, malheureusement, ils sont pas produits là. Donc, on aide là où on peut, on pousse sur certaines catégories quand ça existe très 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 fortement. Par ailleurs, là où je pense qu'on aide, c'est sur les autres sites où en fait les gens de notre écosystème sont par définition des commerçants locaux. Quand on est sur Caïmou, on a plus de 110 000 petites boutiques qui avant étaient présentes dans un marché et qui maintenant vendent en ligne. Jovago, c'est à peu près 100 000 hôtels qui eux-mêmes avant avaient accès aux gens qui connaissaient et qui venaient et qui maintenant peuvent publier sur Internet. Donc je pense que notre écosystème, justement à travers tous les gens qui vendent sur les différentes plateformes, est en fait très très large.
Merci Jérémy Audara de nous avoir accompagné au cours de ces 50 minutes d'édition. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez à ce micro Jean-Pierre Boris. En attendant, portez-vous bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.